Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective.
Exercice 1. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses.
Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez.
Première écoute.
Rapidité, gestion du stress, coordination d'équipe, autant d'éléments qui peuvent être testés à l'aide de jeux vidéo dans certaines entreprises. On en parle avec Caroline Penaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine, ça m'intéresse. C'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui ?
En fait, c'est tout récent parce que ça fait seulement quelques années en France, mais c'est vrai que ça commence à se développer, notamment dans les grandes entreprises. Donc, ça va sans doute pas mal augmenter dans les années à venir.
Alors, quelques exemples d'utilisation ?
Alors déjà, pour définir le serious game, comme on l'appelle, c'est-à-dire un jeu sérieux, ça prend les technologies du jeu vidéo, donc tout ce qui est technologie 3D, intelligence artificielle, etc. Et le passage de niveau, le défi, pour en fait se former dans les entreprises. Donc, ça peut être pour tout ce qui est métier à risque, donc par exemple des caristes qui doivent manier un pont pivotant par exemple, c'est beaucoup plus facile de le faire virtuellement au moins dans un premier temps. Et ensuite ça peut être par exemple la prévention des incendies pour les conducteurs de train, pour gérer la panique des passagers, ce genre de choses.
Ce sont des jeux développés spécialement pour les entreprises ?
Oui, pour l'instant oui. Alors en fait il y a deux choses, c'est-à-dire que dans les serious games il y a aussi des jeux pédagogiques qui sont pour le grand public, donc qui vont par exemple apprendre aux enfants à gérer une aide humanitaire, à développer une ville face au changement climatique, mais il y a ensuite des jeux spécifiques pour les entreprises.
D'où vient ce type de pratique ? Qu'est-ce qu'on sait ?
Alors en fait c'est né surtout aux États-Unis et c'est parti de l'armée, mais c'est tout récent, ça date des années 2000. Il y a eu un jeu très connu qui s'appelle America's Army, qui est en fait fait par l'armée américaine. C'est un jeu de tir tactique et c'est pour inciter les jeunes à s'engager. Et c'est un jeu qui a beaucoup marqué parce qu'il y a eu 8,5 millions d'internautes qui ont joué et on voit que dans les écoles militaires, il y en a beaucoup en fait qui ont joué à ce jeu avant d'arriver.
Là, quel est l'intérêt pour les entreprises ? Ça coûte moins cher que d'essayer dans la vraie vie ?
Alors, pour les entreprises, il y a plusieurs intérêts. Donc, pour les grandes entreprises, ça coûte moins cher parce qu'un jeu est assez cher. Ça coûte, en gros, 50 000 euros à 800 000 euros, ce qui est un gros investissement. Mais quand vous avez 30 000, 50 000 salariés, ça peut être intéressant.
Le genre vaut la chandelle.
Évidemment, pour les PME, c'est moins intéressant. Ensuite, il y a d'autres avantages qui sont que, évidemment, tout ce qui est situation à risque, c'est difficile à simuler en réalité. Par exemple, l'évacuation d'une centrale nucléaire, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est plus simple de le faire en jeu vidéo. Et ensuite, il y a d'autres avantages. Par exemple, quand on se forme et qu'on fait des jeux de rôle, mais en situation avec un formateur, ça peut être gênant d'être face aux autres, parce qu'on peut avoir honte de la façon dont on réagit, etc. Là, on est seul face à sa machine, et donc, on peut avoir un peu plus confiance de ce qui va se passer.
Les acquis sur jeux vidéo, est-ce qu'ils sont réellement transférables dans la réalité ? Est-ce que c'est si facile que ça ?
C'est difficile à savoir, puisqu'on en est au début. Mais on peut dire qu'il y a certaines qualités qui sont transférables, donc la rapidité, la gestion du stress, la gestion d'équipe aussi. Il y a une étude qui avait été menée sur World of Warcraft, le jeu en fait où on est un héros, on poursuit des quêtes, etc. Et on avait montré en fait ceux qui étaient chefs de guildes, qui en fait dirigeaient pas mal de personnes dans le jeu, on avait montré à des directeurs de ressources humaines et ils en avaient déduit que oui, il y avait certaines qualités qui pouvaient s'appuyer. Donc à partir de là, on peut extrapoler et se dire qu'effectivement, il y a certaines qualités développées dans les jeux vidéo, qu'ils soient des jeux vidéo classiques ou des jeux vidéo spécifiquement faits pour la formation, qui peuvent être utilisables en entreprise.
Quels conseils peut-on donner à celles et ceux qui peuvent être amenés à être jaugés, jugés même via les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Déjà, c'est pas avoir peur du jeu vidéo quand on n'y est pas habitué, parce que c'est vrai que autant les jeunes sont habitués, ils ont toujours fait ça, autant les plus âgés ont peut-être moins l'habitude. Alors, c'est ne pas avoir peur, parce que c'est quand même pas un jeu vidéo grand public. En fait, ça se fait avec clavier, souris, donc c'est assez facile d'accès quand même. Et puis, se laisser embarquer et pas calculer, en fait, ses actions, en se disant qu'on va être jugé.
Ça, c'est facile à dire.
Voilà, c'est facile à dire, mais c'est l'avantage aussi de ces logiciels-là. C'est-à-dire que par rapport à une formation classique, on sait qu'on va être jugé. Là, on se laisse un peu emporter par le scénario, parce qu'on a un avatar, on est vraiment
mis
en situation. Donc,
un petit peu, un faux personnage.
Un personnage, en fait, qui nous représente, qui parfois peut être un peu à notre image, ça dépend du niveau de développement du jeu. Donc, on est tellement embarqué dans le scénario qui, certes, est dans un objectif sérieux de formation, mais qui est quand même un environnement ludique, qu'on peut se laisser embarquer. Mais ça reste quand même de la formation, il ne faut pas l'oublier.
Là, on parle d'amélioration, rapidité, peut-être gestion du stress également. Est-ce que c'est utilisé aussi en recrutement?
Alors ça, c'est vraiment les tout débuts. Mais ça pourrait se développer parce qu'en fait, pour l'instant, c'est utilisé pour la formation. Ça peut permettre aussi à des managers de repérer chez leurs employés quels sont les meilleurs éléments. Mais ça se fait pas officiellement, évidemment. Là, il y a une expérience qui est menée chez Auchan pour en fait justement permettre de repérer chez les cadres les futurs managers, donc en voyant un petit peu des qualités. Mais alors, ce qu'il faut dire, et ce que disent tous ceux qui développent ça, c'est que c'est pas la machine qui va faire la sélection, évidemment. C'est une façon de repérer certaines qualités, de façon plus ludique, et ensuite, ça n'empêchera pas le formateur ensuite de parler avec la personne et de faire un entretien d'embauche classique. La machine va pas recruter des gens, enfin en tout cas pas aujourd'hui, heureusement. Et sachez qu'en fait, aujourd'hui, il y a un tiers des entreprises du CAC 40 qui recourent...
Un tiers quand même.
Un tiers qui recourent au Serious Game, et ça se développe très vite. Aujourd'hui, c'est un marché en France qui pèse seulement 10 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup. Dans le monde, c'est 2,2 milliards, mais c'est appelé à se multiplier beaucoup dans les années à venir.
Merci Caroline Penaud, journaliste au magazine Ça m'intéresse.
Merci.
Seconde écoute.
Rapidité, gestion du stress, coordination d'équipe, autant d'éléments qui peuvent être testés à l'aide de jeux vidéo dans certaines entreprises. On en parle avec Caroline Penaud. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine, ça m'intéresse. C'est vraiment un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui?
En fait, c'est tout récent parce que ça fait seulement quelques années en France, mais c'est vrai que ça commence à se développer, notamment dans les grandes entreprises. Donc, ça va sans doute pas mal augmenter dans les années à venir.
Alors, quelques exemples d'utilisation?
Alors déjà, pour définir le serious game, comme on l'appelle, c'est-à-dire un jeu sérieux, ça prend les technologies du jeu vidéo, donc tout ce qui est technologie 3D, intelligence artificielle, etc. Et le passage de niveau, le défi, pour en fait se former dans les entreprises. Donc, ça peut être pour tout ce qui est métier à risque, donc par exemple des caristes qui doivent manier un pont pivotant par exemple, c'est beaucoup plus facile de le faire virtuellement au moins dans un premier temps. Et ensuite ça peut être par exemple la prévention des incendies pour les conducteurs de train, pour gérer la panique des passagers, ce genre de choses.
Ce sont des jeux développés spécialement pour les entreprises?
Oui, pour l'instant oui. Alors en fait il y a deux choses, c'est-à-dire que dans les serious games il y a aussi des jeux pédagogiques qui sont pour le grand public, donc qui vont par exemple apprendre aux enfants à gérer une aide humanitaire, à développer une ville face au changement climatique, mais il y a ensuite des jeux spécifiques pour les entreprises.
D'où vient ce type de pratique? Est-ce qu'on sait?
Alors en fait c'est né surtout aux États-Unis et c'est parti de l'armée, mais c'est tout récent, ça date des années 2000. Il y a eu un jeu très connu qui s'appelle America's Army, qui est en fait fait par l'armée américaine. C'est un jeu de tir tactique et c'est pour inciter les jeunes à s'engager. Et c'est un jeu qui a beaucoup marqué parce qu'il y a eu 8,5 millions d'internautes qui ont joué et on voit que dans les écoles militaires, il y en a beaucoup en fait qui ont joué à ce jeu avant d'arriver.
Là, quel est l'intérêt pour les entreprises? Ça coûte moins cher que d'essayer dans la vraie vie?
Alors, pour les entreprises, il y a plusieurs intérêts. Donc, pour les grandes entreprises, ça coûte moins cher parce qu'un jeu est assez cher. Ça coûte en gros 50 000 euros à 800 000 euros, ce qui est un gros investissement. Mais quand vous avez 30 000, 50 000 salariés, ça peut être intéressant.
Le jeu vaut la chandelle.
Évidemment, pour les PME, c'est moins intéressant. Ensuite, il y a d'autres avantages qui sont que, évidemment, tout ce qui est situation à risque, c'est difficile à simuler en réalité. Par exemple, l'évacuation d'une centrale nucléaire, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est plus simple de le faire en jeu vidéo. Et ensuite, il y a d'autres avantages. Par exemple, quand on se forme et qu'on fait des jeux de rôle, mais en situation avec un formateur, ça peut être gênant d'être face aux autres, parce qu'on peut avoir honte de la façon dont on réagit, etc. Là, on est seul face à sa machine, et donc, on peut avoir un peu plus confiance de ce qui va se passer.
Les acquis sur jeux vidéo, est-ce qu'ils sont réellement transférables dans la réalité? Est-ce que c'est si facile que ça?
C'est difficile à savoir, puisqu'on en est au début. Mais on peut dire qu'il y a certaines qualités qui sont transférables, donc la rapidité, la gestion de stress, la gestion d'équipe aussi. Il y a une étude qui avait été menée sur World of Warcraft, le jeu en fait où on est un héros, on poursuit des quêtes, etc. Et on avait montré en fait ceux qui étaient chefs de guildes, qui en fait dirigeaient pas mal de personnes dans le jeu, on avait montré à des directeurs de ressources humaines et ils en avaient déduit que oui, il y avait certaines qualités qui pouvaient s'appuyer. Donc à partir de là, on peut extrapoler et se dire qu'effectivement, il y a certaines qualités développées dans les jeux vidéo, qu'ils soient des jeux vidéo classiques ou des jeux vidéo spécifiquement faits pour la formation, qui peuvent être utilisables en entreprise.
Quels conseils peut-on donner à celles et ceux qui peuvent être amenés à être jaugés, jugés même via les jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Déjà, c'est pas avoir peur du jeu vidéo quand on n'y est pas habitué, parce que c'est vrai que autant les jeunes sont habitués, ils ont toujours fait ça, autant les plus âgés ont peut-être moins l'habitude. Alors, c'est ne pas avoir peur, parce que c'est quand même pas un jeu vidéo grand public. En fait, ça se fait avec clavier, souris, donc c'est assez facile d'accès quand même. Et puis, se laisser embarquer et pas calculer, en fait, ses actions, en se disant qu'on va être jugé.
Ça, c'est facile à dire.
Voilà, c'est facile à dire, mais c'est l'avantage aussi de ces logiciels-là. C'est-à-dire que par rapport à une formation classique, on sait qu'on va être jugé. Là, on se laisse un peu emporter par le scénario parce qu'on a un avatar, on est vraiment
mis
en situation. Donc,
un petit peu un faux personnage.
Un personnage, en fait, qui nous représente, qui parfois peut être un peu à notre image. Ça dépend du niveau de développement du jeu. Donc, on est tellement embarqué dans le scénario qui, certes, est dans un objectif sérieux de formation, mais qui est quand même un environnement ludique, qu'on peut se laisser embarquer. Mais ça reste quand même de la formation, il ne faut pas l'oublier.
Là, on parle d'amélioration, rapidité, peut-être gestion du stress également. Est-ce que c'est utilisé aussi en recrutement?
Alors ça, c'est vraiment les tout débuts, mais ça pourrait se développer. Parce qu'en fait, pour l'instant, c'est utilisé pour la formation. Ça peut permettre aussi à des managers de repérer chez leurs employés quels sont les meilleurs éléments. Mais ça ne se fait pas officiellement, évidemment. Là, il y a une expérience qui est menée chez Auchan. pour en fait justement permettre de repérer chez les cadres les futurs managers, donc en voyant un petit peu des qualités. Mais alors, ce qu'il faut dire, et ce que disent tous ceux qui développent ça, c'est que c'est pas la machine qui va faire la sélection, évidemment. C'est une façon de repérer certaines qualités de façon plus lydique, et ensuite ça n'empêchera pas le formateur ensuite de parler avec la personne et de faire un entretien d'embauche classique. La machine ne va pas recruter des gens, enfin en tout cas pas aujourd'hui, heureusement. Et sachez qu'en fait, aujourd'hui, il y a un tiers des entreprises du CAC 40 qui recourent...
Un tiers quand même.
Un tiers qui recourent au Serious Game, et ça se développe très vite. Aujourd'hui, c'est un marché en France qui pèse seulement 10 millions d'euros, ce qui n'est pas beaucoup. Dans le monde, c'est 2,2 milliards, mais c'est appelé à se multiplier beaucoup dans les années à venir.
Merci Caroline Pénaud, journaliste au magazine Ça m'intéresse.
Merci.
Exercice 2.
Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez maintenant les questions.
Notre planète. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Pour la première fois depuis 150 ans, la forêt française ne grandit plus. Elle a même tendance à rétrécir. La faute à qui ? Eh bien, aux villes et aux bétons qui s'étalent et qui grignotent la campagne.
Oui, c'est une petite révolution parce que la forêt française était l'une des rares au monde à grandir chaque année. Alors tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de paysans, donc les arbres prenaient la place des cultures agricoles. Eh bien, en 2008, la campagne a continué de disparaître, mais au profit surtout de la ville, des métropoles, des quartiers nouveaux, des zones pavillonnaires qui ne cessent de s'étendre. En moyenne, ces dernières années, 70 000 hectares de terres agricoles disparaissent par an. C'est l'équivalent de 7 fois la superficie de Paris qui se construit chaque année. C'est énorme. Alors cela dit, l'étalement des villes va peut-être ralentir. En tout cas, il y a une réflexion nouvelle dans ce pays, car aujourd'hui, plus vous habitez loin d'un centre-ville, plus ça vous coûte cher en transport. Ensuite, étendre les villes, c'est contraire aux objectifs de lutte contre le réchauffement. Donc la tendance serait plutôt à densifier les zones urbaines, à condition évidemment de les rendre agréables, de développer des transports en commun et d'y maintenir des espaces verts. Certaines communautés d'agglomération, comme celle de Rennes ou de Nantes, ont décidé de stopper l'étalement. Elles ne construisent plus de nouveaux quartiers en périphérie, mais réhabilitent les centres, y mettent du vert, rachètent des friches pour y construire des éco-quartiers. La loi sur le Grenelle de l'environnement a aussi pour but de stopper l'hémorragie des villes. Il était temps de commencer à y penser dans les pays du Nord, en Suisse, en Allemagne. Ça fait 30 ans qu'ils le font.
Virginie Garin.
L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite.